premier colloque du syndicat français des arts thérapeutes. Corps présent, corps absent en art thérapie. Samedi 25 juin 2022.
Corps et discours par Sébastien Gay, art thérapeute.
Notre prochain intervenant est donc Sébastien Gay, qui est art thérapeute et musicien. Il va intervenir par rapport à corps et discours.
Donc voilà, je vous propose une communication que j'ai intitulée « Corps et discours », dans laquelle je vous propose d'explorer une idée. C'est l'idée que, dans une certaine mesure, l'art-thérapie, c'est une interrogation en acte du rapport qu'entretient l'humain avec son langage. Je suis relativement novice dans ma pratique d'art-thérapeute, d'art-thérapeute autonome en tout cas. Presque tous les jours, j'interviens auprès de personnes qui ont des difficultés avec le langage. Bon, en fait, on en a tous un peu, hein, je pense. J'ai pris l'occasion de ce colloque, en fait, pour faire une sorte d'état des lieux, des différents questionnements théoriques et pratiques qui sous-tendent mon approche du métier actuellement. Je vous les livre sous forme d'une sorte de synthèse aujourd'hui, et j'aimerais vraiment que ce soit le prétexte à de nombreux échanges sur la durée. Alors, j'ai découpé cette intervention en trois parties. La première partie, je voudrais aborder le langage comme un médium malléable. Ensuite, dans la deuxième partie, parler un petit peu de la différence ou de qu'est-ce qui peut éclairer ce que c'est que de dire et ce que c'est que de faire. Et puis, dans une troisième partie, aborder plus un aspect pratique, je dirais, la mise en œuvre d'un certain nombre d'idées. Notamment dans des séances de musicothérapie avec des jeunes atteints de troubles de spectre de l'autisme. Puis une petite conclusion que j'ai appelée la part d'agir. Donc le langage comme médium malléable. Donc ce concept de médium malléable, je pense que vous êtes familier avec, il a été introduit de façon d'ailleurs assez marginale par Marion Milner et puis développé de manière assez sophistiquée par René Roussillon plus tard. Le médium malléable, support de la symbolisation, c'est ce qui se laisse modeler au gré de ses envies, qui offre sa capacité à donner forme, mais qui aussi oppose une certaine résistance, une résistance intrinsèque qui est d'ordre logique ou physique, et qui oblige en fait en retour celui qui le manipule à se plier à certaines exigences, tout en permettant un nombre presque infini d'agencements. Entre parenthèses, beaucoup plus récemment, l'anthropologue Philippe Descola a travaillé sur un concept qu'il appelle figuration, qui rejoint par certains aspects celui de médium malléable. Donc voilà, concept de figuration qui ressemble à celui de concept malléable, mais qui est un petit peu plus récent, puis bon, qui n'est pas tout à fait superposable quand même. Dans le domaine matériel, l'archétype du médium malléable, c'est la terre ou la pâte à modeler. Mais c'est important de voir qu'il existe un autre médium malléable qu'on utilise tous, en tout cas presque tous, et en permanence, c'est le langage. Le langage, c'est une sorte de pâte à modeler de l'esprit. Le poète Christophe Tarkos utilise d'ailleurs l'expression « pâte-mot » pour désigner cette matière verbale, malléable, visqueuse, transformable, mais un peu résistante. De son côté, Claude Simon parle du langage comme d'un matériau dont les contraintes et les pouvoirs à la fois gauchissent les actions des écrivains, mais en même temps les enrichissent. On fait presque tout ce qu'on veut avec cette pâte. Le langage, ça résiste pas, ça ne nécessite pas d'outils, ça a des possibilités infinies et ça fonctionne à la vitesse de la lumière. On rêverait d'être aussi facilement à l'aise avec un piano ou avec un pinceau. Et contrairement au langage, le corps, c'est ce qui résiste. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire une communication à ce colloque, c'est-à-dire à manipuler le langage, c'est-à-dire encore à tenir des discours sur moi ou sur le monde. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire, comme certains l'ont fait ou vont le faire, de faire un atelier, même avec trois bouts de ficelle et même avec un ordinateur. Atelier qui inévitablement, à un moment ou à un autre, convoquerait le corps des participants. Alors, il y a une sorte d'hypothèse que j'émets, qui est que plus on vieillit dans nos sociétés urbaines, tertiaires, sociétés d'information, plus les médiums malléables qui s'offrent à certains d'entre nous tendent à se raréfier au profit du seul et unique langage. Pour beaucoup, créer, inventer, penser ne deviennent plus possibles que par et dans le langage. On a des chansons et des films bavards, des catalogues d'expositions, des présentations de spectacles, des punchlines, des teasers. Les anglicismes, c'est encore beaucoup mieux. Et pour résumer ça d'une formule un peu facile, je vous l'accorde, on pourrait dire qu'il n'y a plus une seule romance sans parole. Nous sommes au siècle de la parlotte, écrivait Fernand Deligny, que nous retrouverons un peu plus tard. Il parlait du XXe siècle. Je ne sais pas trop ce qu'il aurait dit du suivant. L'injonction permanente à s'exprimer, commenter, donner son point de vue, trouver les mots justes, précis, les formules, les slogans, les fameux éléments de langage, ça rabougrit les discours, ça les rabat en permanence sur le déjà vu, déjà pensé, déjà prêt, des discours de proverbes et de citations, de simples explorations synchroniques de champs lexicaux. On ne pense plus beaucoup avec les mots, on brainstorm. On pourrait dire même qu'il y a une confusion de l'usage poétique et de l'usage rationnel du langage. Et c'est important de prendre conscience de l'envahissement de tout le vécu par le langage et aussi de la nécessité de s'entourer de garants épistémologiques. Faute de quoi, on prend le risque de faire passer pour vrai tout ce qui sonne bien, tout ce qui fait bien fonctionner le langage. En préparant cette communication, je me méfie de ma tendance à faire littéraire. Et j'essaye, pour citer Paul Valéry, qu'on retrouvera également un peu plus tard, de me garder du mal de prendre une métaphore pour une démonstration. En effet, asserter « je crois que ce que je dis est vrai » et en donner des raisons, ce n'est pas du tout la même chose que d'affirmer « j'explore les propriétés du médium malléable langage ». Qu'est-ce que c'est que cette notion de « dire » Qu'est-ce que c'est que cette notion de « faire » Je commencerai par une anecdote personnelle qui a joué un rôle assez fondateur dans ma réflexion sur la pratique d'art-thérapie depuis quelques années. Il y a quelques années, justement, je visitais le parc du château de Kerguéhennec, près de Bignan, dans le Morbihan, où sont exposées des œuvres contemporaines. J'étais avec des amis et on s'est arrêté devant cette œuvre de Roland Cognet, qui est intitulée « Chêne ». Et un des amis avec qui j'étais, qui était assez critique, voire assez ironique, il faut bien le dire, s'est arrêté devant cette œuvre et a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce truc ? C'est quoi le message ? Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il faut lutter contre la déforestation ?» Mais cette œuvre veut-elle quelque chose ? Et si elle veut vraiment quelque chose, est-ce que ce quelque chose est de l'ordre du dire ? De mon côté, j'essayais de me mettre à l'écoute de ce que je ressentais en observant cet étrange assemblage. L'aspect pesant de la muraille et de l'énorme tronc, le contraste avec la légèreté de l'espèce de table sur laquelle il est posé, la continuité des couleurs, le rapport vertical-horizontal, l'impression que l'arbre est posé là pour soutenir un écroulement imminent. Bref, je ne voyais là aucun message. Cette œuvre n'était pas pour moi un symbole, une écriture ou une parole. Elle ne renvoyait à rien d'autre. Elle n'était pas un discours sur quelque chose, mais elle provoquait au contraire des affects, comme une esquisse de mouvement dans mon corps. Didier Anzieu, dans « Le corps et l'œuvre », et Claude Simon, dans « Le discours de Stockholm », reprennent tous les deux, cette citation de Paul Valéry, que je vous mets parce qu'elle est un peu longue. « Si l'on s'inquiète de ce que j'ai voulu dire, je réponds que je n'ai pas voulu dire, mais voulu faire, et que c'est cette intention de faire qui a voulu ce que j'ai dit. » Assez étonnant de voir cette citation d'un poète et d'un écrivain qui ne dit pas qu'il a voulu dire, mais qu'il a voulu faire. Rien n'illustre mieux, à mon avis, cette notion d'affect provoquée par les œuvres d'art que les mises en scène photographiques d'un photographe, donc qui s'appelle Gilbert Garcin, artiste tout à fait singulier et qui n'a jamais souhaité commenter ses photos, préférant laisser le spectateur investir l'espace laissé libre par elle. Alors, je vais vous passer quatre photos de Gilbert Garcin à titre d'exemple. Je les passe avec l'autorisation des ayants droit. Donc, je les passe les unes à la suite des autres, sans commentaire. Je laisse quelques secondes par photo et puis à la fin, j'ai une diapo où elles sont toutes les quatre ensemble. Voilà, dans ces exemples, il me semble qu'on saisit bien ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de puissance, d'une forme de mouvement intérieur que ces photos produisent sur nous. Mouvement intérieur qui peut potentiellement ou partiellement se prolonger dans le langage par des paroles, mais qui n'est pas du langage. Ça fait ressentir quelque chose qui court-circuite en quelque sorte le langage, qui déborde tout discours et qui le rend toute parole assez superflue. L'œuvre d'art, c'est pas nécessairement un objet symbolisant quelque chose d'autre. Une œuvre d'art n'articule pas nécessairement un discours. Au contraire, elle ramène au corps, à la matérialité, et possède ce qu'Alfred Gell, un anthropologue anglais, a nommé, donc d'un terme anglais qui n'est pas facilement traduisible en français, une agence. Donc c'est le terme agency en anglais. Une agence, c'est-à-dire une capacité à agir dans le monde. Les œuvres d'art sont capables d'agence Elles ont une intentionnalité, une puissance d'agir sur nous de façon autonome, représentant leur créateur, comme on dit d'une ambassade, qu'elle représente un gouvernement. S'exprimer, le soi hors de soi, hors des limites de son propre corps, ce n'est pas uniquement symboliser, ce n'est pas que de l'ordre du langage. Alors d'un point de vue un peu pratique, moi j'anime des groupes de musicothérapie, notamment avec des jeunes souffrant de troubles du spectre de l'autisme, où cette question du langage, elle est évidemment centrale. Et très rapidement, après les premières séances, je repartais des séances avec une impression très très désagréable d'avoir vraiment parlé à tort et à travers et d'être en quelque sorte embarrassé par mon propre langage en face de ces jeunes. Fernand Deligny, qui lui maniait la langue française avec une très grande aisance, une très grande élégance, toute sa vie, il a utilisé le langage pour se poser la même question. À quoi peut bien ressembler la pensée de quelqu'un qui n'a pas accès au langage ? Il a observé notamment Jean-Marie, donc il écrit dans ses écrits J-A-N-M-A-R-I, qui est un autiste mutique, dont il a commencé à s'occuper à la fin des années 60. Jean-Marie, ce gamin-là, pour reprendre le titre d'un film qu'il lui a consacré, ce qui est intéressant dans la démarche de Deligny, c'est qu'il envisage le non-langage non comme un manque, une absence, une déficience à laquelle il faudrait essayer de remédier, mais plutôt comme un autrement, un ailleurs, une autre vie possible. Ce n'est pas vraiment que le langage manque à Jean-Marie, c'est plutôt que Jean-Marie est en quelque sorte imperméable au langage. Il ne se sent pas concerné par la parole. Il ne se sent pas concerné par la parole de l'autre et elle coule sur lui sans pouvoir atteindre son but. Les mots, il s'en fiche. Le langage est quelque chose qui vient de nous et qui lui est à lui à peu près totalement indifférent. Plus récemment, des recherches ont montré, notamment Monica Zilbovicius, que dans l'autisme, c'est même en amont du langage cette indifférence. C'est carrément la voix humaine que les autistes ou certains autistes ne distinguent pas spécifiquement d'autres sons. Et à nous, être parlants, soumis à la loi du langage, nous qui ne savons aborder l'autre autrement qu'en lui parlant, assez machinalement, comme je suis en train de le faire finalement, Jean-Marie, être humain sans langage, le fait que Jean-Marie, être humain sans langage, ne se sente pas concerné par ce qu'on veut bien lui dire, nous surprend, écrit Deligny, beaucoup plus encore que s'il était sans ombre. Et Deligny écrit aussi, c'est évident qu'ils pensent, ces enfants qui n'ont aucunement l'usage du langage, mais il faut du langage quelque part où nous, on est perdus. Alors la lecture de l'œuvre de Deligny a été un éclairage absolument extraordinaire pour l'art thérapeute bavard que je pensais être. Et Deligny, il désigne la pensée hors du langage par un mot, c'est le mot « image ». L'image, nous dit-il, est un pur mouvement autonome. C'est très très proche de la notion d'agence que j'évoquais tout à l'heure. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire avec mes séances de musicothérapie et est-ce que je ne pouvais pas essayer de réfléchir à ces territoires de pensée hors du langage et à peut-être faire quelque chose avec toutes ces idées. Alors voilà un exemple parmi d'autres de dispositifs que j'ai élaboré dans ce sens. Alors c'est là où j'ai cette petite vidéo avec ce son, j'espère que ça va bien marcher. Donc ce dispositif, il est basé sur cette petite ritournelle. Ritournelle, ça vient de l'italien ritorno, qui veut dire retour, qui est très simple. On n'est pas du tout dans la sophistication de musique que les musiques passées par Pierre Lemarquis hier. La perdrix, c'est une petite chanson qui est chantée, qu'on apprend aux enfants pour apprendre la succession des notes de ré mi fa sol. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle contient des choses qui sont complètement indépendantes des paroles. Alors, quelques éléments d'analyse. Donc, il y a quatre phrases. Do, ré, mi, la perdrix, mi, fa, sol, elle s'envole, fa, mi, ré, dans le pré, mi, ré, do, elle tombe dans l'eau, qui sont aussi quatre petites phrases musicales qu'on peut appeler des séquences. Les deux premières séquences montent de Do à Sol. Do, Ré, Mi, La perdrix, Mi, Fa, Sol, elle s'envole. Et les séquences 3 et 4 descendent vers le do initial. Fa, mi, ré, dans le pré, mi, ré, do, tombe à l'eau. Il y a une certaine symétrie. Et puis, d'un point de vue harmonique, alors là, on est dans quelque chose d'extrêmement simple. En tout cas, on peut l'envisager comme ça. On n'a que deux accords. Un accord du premier degré sur les deux premières séquences. Une petite dissymétrie qui s'introduit sur la troisième séquence avec un accord du cinquième degré. Et puis, en retour sur la quatrième séquence, à un accord du premier degré pour faire entendre au passage une cadence parfaite qui donne cette impression de fin, de point final à la phrase musicale. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aucun de ces éléments d'analyse, qui ne sont pas très compliqués, mais aucun de ces éléments-là n'a besoin d'être explicité pour être ressenti. Il y a dans cette petite ritournelle une articulation d'éléments au sein d'un médium malléable sonore qui a une agence, une capacité à agir sur moi. Il y a une pensée qui est présente, mais il n'y a pas de mots. Et c'est bien d'image musicale, image au sens de linien, qu'il s'agit ici. Et à partir de cette petite ritournelle, j'ai construit un dispositif électroacoustique assisté par ordinateur qui permet d'égrener la succession des séquences 1 à 4. Donc c'est tout simple, hein, c'est un objet métallique résonnant, en l'occurrence un pied de table IKEA, dans lequel j'ai caché un micro piezo. Donc, on a une petite maillotche qui permet de taper dessus et chaque impulsion sur l'objet est transmise à un ordinateur par l'intermédiaire d'une carte son. J'utilise un logiciel de MAO qui s'appelle MaxMSP pour construire un petit programme qui me permet d'égrener ces séquences à chaque impulsion, 1, 2, 3, 4, puis vient au départ et on peut boucler comme ça autant de fois qu'on veut. Et c'est vraiment l'attente du retour du cheminement harmonique, l'effet suspensif du silence lors de l'arrêt entre deux séquences qui appelle le geste percussif de la maillotche par la mobilisation d'un mouvement intérieur que je rapproche tout à fait de celui ressenti, par exemple, lorsqu'on regarde les photos de Gilbert Garcin que j'ai montré tout à l'heure. Et la plupart des enfants porteurs de troubles de spectre autistique à qui je propose ce dispositif s'en saisissent très rapidement, sans qu'il y ait besoin du tout d'expliquer par les mots. Alors, il ne s'agit évidemment pas de les conditionner. L'utilisation du dispositif en elle-même, ce n'est pas du tout une fin en soi. Mais d'abord, c'est un plaisir pour eux, qui sont si souvent en situation d'échec par leur handicap, de trouver tout de suite le truc, en quelque sorte. Et puis surtout, ça sert à créer du lien avec moi, et puis aussi entre les participants du groupe. Et puis ensuite, il sert de point de départ pour créer, pour inventer d'autres façons de s'en servir, d'autres modes de jeu possibles. L'objet métallique, on peut taper dessus avec le pied. Chaque participant peut jouer une séquence, puis passer la maillotche au suivant, etc., etc. Et tout ça, presque sans parler. C'est sur la pensée de Deligny, encore, que je m'appuierai pour conclure, en partant de la distinction qu'il établit entre le faire, qui est faire quelque chose dans un but précis, pour obtenir quelque chose, et l'agir, qui est agir pour rien, agir pour agir. Les autistes, nous dit Deligny, sont dans l'agir. Ils n'attendent pas de résultat de ce qu'ils font. Or, dans le passage de l'agir au faire, Deligny voit un effet du langage. Parler, s'exprimer, c'est construire des discours, être guidé par des rapports nécessaires de cause et d'effet. On retrouve en écho la distinction que fait Winnicott entre le jeu qui possède des règles et un but, le jeu de dames, le jeu d'échecs, et le jeu sans règles, sans objectif précis, le jeu libre des enfants qui font d'un morceau de rideau une robe de princesse ou d'une boîte en carton un vaisseau interstellaire. De la réalité de ce qui se joue pour les autres en séance, bien peu me reste à moi, art thérapeute, accessible. Mais dans l'espace art thérapeutique, cet espace transitionnel, cet espace de jeu, on peut trouver ou retrouver cette part d'agir, la part du corps, la part d'enfance, un rapport plus souple, plus libre au langage tout puissant.